C'est la revue de presse internationale avec vous, Anne Corpet. Bonjour Anne.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et on commence cette revue de presse de l'actualité internationale par une enquête menée par un réseau de médias européens. Elle montre que la société Bois Rouge en Centrafrique est étroitement liée aux intérêts russes dans le pays et plus précisément au réseau d'affaires d'Evgeny Prigozhin, un proche de Vladimir Poutine soupçonné d'être le dirigeant du groupe Wagner.
Oui, cette enquête s'est étalée sur 3 mois et publiée par le quotidien belge Le Soir. Elle remonte au 9 février 2021, lorsqu'une société inconnue, Bois Rouge, obtient le droit d'exploiter une forêt de 186 000 hectares dans le sud-ouest du pays. Cette entreprise se présente comme une société 100% centrafricaine, mais il s'agit en réalité d'un paravent des intérêts russes en Centrafrique. Et sur Le Journal, la concession forestière a été attribuée à la société 15 jours après l'arrivée des mercenaires russes dans la région, remarque Le Soir, qui décrit notamment les liens financiers entre Bois Rouge et les hommes de Wagner. Notre analyse montre que Bois Rouge a obtenu le droit d'exploiter la forêt de manière intensive, ainsi que des avantages jamais octroyés à d'autres entreprises, ajoute le quotidien, qui précise « Malgré ce traitement de faveur, nous avons pu établir que Bois Rouge n'avait pas respecté tous ses engagements. » L'exploitation a par exemple commencé sans plan d'aménagement ni étude d'impact environnemental pourtant obligatoire. Dans un encadré intitulé « En Centrafrique, le groupe Wagner fait feu de tout bois », Le Soir constate « Les hommages aux mercenaires de Wagner sont partout » et poursuit « Les conseillers russes, comme on les surnomme pudiquement, ont des statues et des films à leur gloire, des ministres portent des t-shirts à leur effigie et des membres d'associations financés par Moscou, chantent leurs louanges lors de manifestations.
En Italie, Anne, ce sont les conditions d'accueil des migrants sur l'île de Lampedusa qui font la une de la presse.
Des immigrés dans des conditions inhumaines, dénonce la Repubblica, qui parle de plaies purulentes du système d'accueil du pays. Le journal décrit des migrants qui dorment sur des nattes souillées d'urine et habitées par des cafards, à côté de restes de nourriture, adossés à des tas d'ordures. Près de 2000 personnes s'entassent dans un lieu conçu pour en accueillir 500 tout au plus et les arrivées continuent. Pas moins de 15 bateaux arrivent chaque jour, échoués sur les côtes de Lampedusa, où les vacanciers prennent le soleil ou s'attablent au restaurant, estime le journal. Il donne la parole à une ancienne employée du centre d'accueil, Piera Magnolia, a démissionné en avril. La directrice nous a empêchés de donner aux enfants des bonbons et des snacks. Elle prétendait qu'ils pouvaient les rendre malades, raconte-t-elle. Un autre salarié, toujours en service, témoigne. Il arrive que ceux qui viennent de finir de ramasser les ordures soit envoyée à la cuisine. Parfois, la nourriture est mauvaise. Parfois, elle est impropre à la consommation. Les conditions sanitaires sont une honte nationale, s'indigne la Repubblica, qui annonce dans un autre article la venue prochaine sur place du dirigeant de la Ligue du Nord. Matteo Salvini viendra faire campagne autour de son thème de prédilection, la lutte contre l'immigration.
En direction du Liban à présent, L'Orient Le Jour qui a justement enquêté sur l'explosion du nombre de candidats à l'immigration clandestine.
Voici un business juteux qui fleurit au Liban grâce à la crise, le trafic d'êtres humains par bateau. À mesure que les conditions de vie se dégradent, les candidats à l'immigration illégale par la mer se font de plus en plus nombreux au pays du Cèdre, constate le quotidien. Selon cette enquête, les passeurs font de juteux bénéfices, 3 à 5 000 dollars par passager, mais peu d'efforts sont consentis pour lutter contre le phénomène. Une fois renvoyés en procès, les passeurs sont très souvent acquittés et remis en liberté, déplore le journal. Sous le titre « Ces Libanais prêts à tout pour fuir, quitte à en mourir », L'Orient Le Jour a par ailleurs interrogé plusieurs candidats au départ, dont certains rescapés d'un naufrage qui avait causé la mort d'une trentaine de victimes en avril. C'est le cas de Mario, 36 ans. Lorsqu'on m'a repêché, j'ai vomi sur une petite fille morte étendue à mes côtés. Je suis hanté par ce moment, raconte-t-il avant d'ajouter. Ma cousine en Allemagne a essayé par tous les moyens de me faciliter l'obtention d'un visa, mais ça ne marche pas. Du coup, je vais retenter la mer s'il le faut.
Enfin, aux États-Unis, Anne Corpet, le Miami Herald revient sur un autre drame de l'immigration, le naufrage d'un bateau d'Haïtiens. C'était dimanche au large des Bahamas.
Presque toutes les victimes retrouvées étaient des femmes, remarque le quotidien. C'est la deuxième fois en 2 mois qu'un nombre écrasant de femmes haïtiennes perdent la vie dans un naufrage. 17 corps ont pour l'instant été repêchés à l'issue du naufrage, dont un seul homme. Le quotidien a interrogé un sociologue haïtien de l'université de Miami qui tente une explication. Les femmes haïtiennes savent moins nager que les hommes.